Radio Vatican, France et Afrique.
Auditrices, auditeurs, mesdames et messieurs, merci de renouveler votre fidélité à l'écoute de Radio Vatican et bienvenue à cette nouvelle édition. Parmi ces audiences, vendredi, le pape François a reçu les membres de la Confédération nationale de la formation professionnelle à l'occasion de ses 50 ans d'existence. Le pape a également accordé une audience à la Fondation Blanquerna de l'archidiocèse de Barcelone en Espagne. Nous y reviendrons en détail dans les nouvelles de l'Église qui nous conduiront également en République démocratique du Congo. Le Kenya et la Tanzanie, frappés par des pluies diluviennes, se préparent à affronter un autre cyclone Hidada. Nous en parlerons dans l'actualité sociopolitique qui nous conduira en Tunisie, au Soudan, entre autres. Dans cette édition, vous suivrez à nouveau le père Alfred Kitezo, directeur de Foi et Joie en République démocratique du Congo, sur la collaboration entre cette fédération et les pays africains dans le cadre de l'éducation populaire. Puis nous bouclerons cette édition par notre rubrique sur l'actualité internationale de la semaine. Voilà pour les titres.
Radio Vatican, France et Afrique, Jacques N'Gol.
Le pape François a reçu en audience ce vendredi matin au Vatican les membres de la CONFAP, la Confédération italienne de la formation professionnelle. Dans son discours, il a évoqué trois mots, jeunes, formation et profession, afin de souligner l'importance d'insérer pleinement les jeunes dans le monde du travail et de redonner tout son sens à la valeur du travail. Les précisions de Xavier Sartre.
Les jeunes sont une des catégories les plus faibles de notre temps, remarque d'emblée le pape, qui souligne que l'abandon éducatif et formatif est une tragédie. Il appelle, outre à une législation qui favorise la reconnaissance sociale des jeunes, à instaurer un changement de génération où les compétences de ceux qui partent sont au service de ceux qui entrent sur le marché du travail. François exhorte à être attentif à ces jeunes, à prendre soin de ceux qui n'ont pas eu d'opportunités ou qui proviennent de situations sociales désavantagées. Nous sommes appelés à les prendre en charge pour qu'aucun d'entre eux ne puisse être mis à la porte, surtout les plus pauvres, les plus marginalisés, qui risquent de graves formes d'exclusion, y compris les migrants. Ceux qui se sentent rejetés peuvent se retrouver dans des formes humainement dégradantes de malaise social, ce que nous ne devons pas accepter. Passant à la formation, le pape met en garde contre deux tentations suscitées par les transformations toujours plus complexes du travail, celle de la technophobie et celle de la technocratie. Il faut donc investir des ressources et des énergies, parce que la transformation du travail exige une formation continue, créative et toujours mise à jour. Autre nécessité, celle de rendre la dignité à certains travaux, surtout manuels, qui sont encore aujourd'hui socialement peu reconnus. Enfin, le pape s'attarde sur le mot de profession qui nous définit. Pour lui, il faut que les parcours de formation soient au service de la croissance globale de la personne dans sa dimension spirituelle, culturelle et formative.
Merci Xavier. Le pape a également reçu les membres de la Fondation Blanquerna, un institut d'enseignement supérieur fondé en 1948 et intégré à l'université Ramon Llull de Barcelone. François a notamment souligné la pertinence du message contenu dans le nom de la Fondation. Blanquerna est un personnage littéraire, protagoniste d'un livre du philosophe et bienheureux Ramon Llull qui, en racontant son histoire, décrit la société de son temps, l'Espagne du XIIIe siècle, en offrant quelques modèles de vie chrétienne qui peuvent aider chacun à suivre le Christ, quelle que soit sa vocation. Ce qui compte dans l'action éducative, a dit le pape, c'est d'aider les jeunes à découvrir le projet de Dieu sur eux et à les réaliser. Le Saint-Père a recommandé de se libérer des stéréotypes inaccessibles que les groupes de pression essaient de nous imposer et de vivre avec un esprit de responsabilité et d'humilité. Au titre des nominations, le pape François a nommé vendredi évêque du diocèse d'Ayara au Nigeria, Mgr Simeon Okezuonwobi, qui était jusqu'à présent évêque titulaire de Rusguni et auxiliaire de l'administration apostolique du même diocèse. Mgr Okezuo a fait sa profession perpétuelle le 11 septembre 1988 en tant que membre de la Congrégation des Fils Missionnaires du Cœur Immaculé de Marie Claretien. Il a été ordonné prêtre le 21 juillet 1990 pour sa congrégation. Le nouvel évêque d'Ayara a été nommé évêque titulaire de Rusgunye et évêque auxiliaire de l'administration apostolique de ce même diocèse le 14 octobre 2023, recevant la consécration épiscopale le 19 décembre suivant. En République démocratique du Congo, ouverture jeudi à l'Université catholique de Kinshasa d'un colloque international par Mgr Marcel Outembi, archevêque de Kisangani et président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO. Plus de détails avec Jean-Baptiste Malengue.
À l'Université catholique de Kinshasa Limité, le jeudi 2 mai, le président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Mgr Marcel Outembi, archevêque de Kisangani, a ouvert les travaux du tout premier colloque de trois jours organisé par l'Association des universités et instituts supérieurs catholiques du Congo. Le vicaire général de Kinshasa, Mgr Charles Ndaka, avait présidé la messe d'ouverture. Le recteur de l'Université catholique du Congo et président de l'Association des universités et instituts supérieurs catholiques a prononcé le mot de bienvenue, Monsieur l'abbé Léonard Santédi.
Une trentaine d'institutions d'enseignement supérieur, universités, instituts supérieurs catholiques au Congo, se rencontrent au sein d'une association, veulent travailler en réseau pour apporter leur contribution sur des questions fondamentales. Et le thème, justement, c'est l'enseignement supérieur catholique au service du développement intégral. Alors, nous avons reçu le message fort et capital du préfet du dicastère pour la culture et l'éducation qui nous a justement rappelé que l'enseignement catholique ne vise pas simplement l'acquisition des diplômes, mais vraiment la formation des hommes et des femmes épris des valeurs pour servir la société.
Jean-Baptiste Malengue Kalunzu pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Ce vendredi est la journée mondiale de la liberté de presse, l'occasion pour l'ONG Reporters sans frontières de publier comme chaque année son index mondial de l'état de l'information et de la capacité des journalistes à exercer librement leur métier. Selon l'ONG, la liberté d'expression se dégrade de plus en plus dans plusieurs pays, parmi lesquels les pays du Sahel engagés dans la lutte contre le terrorisme. Anne Bokande est la directrice éditoriale de Reporters sans frontières. On l'écoute.
Il y a différents types d'entraves qui sont remarquées dans la région. On voit bien qu'il y a une intensification des attaques des groupes armés ces dernières années qui n'a cessé de réduire l'espace de l'information pour des journalistes. On voit aussi qu'il y a un affaiblissement des moyens de production pour les journalistes et puis aussi une dégradation qui a été exacerbée par l'arrivée au pouvoir de juntes militaires. Donc là, si on peut donner quelques événements récents dans quelques jours, cela fera 6 mois que 2 journalistes de radio communautaire au Mali ont été pris en otage, ont disparu, dont on n'a aucune nouvelle, dont Salek Adjidou et Moustapha Koné, et que ce même jour, de leur collègue, Abdulaziz Djibrila, a été tué, a été retrouvé mort, aussi journaliste d'une radio communautaire. Donc ça, c'est une attaque, a priori, de groupes armés dans la région. Après, il y a d'autres types d'entraves. Là, on le voit, il y a quelques jours, au Burkina Faso, plusieurs médias ont été suspendus ou interdits jusqu'à nouvel ordre, donc ce qui porte à un peu plus de 10 le nombre de médias interdits désormais au Burkina Faso.
Des propos recueillis par Vianney Grossin. En Tunisie, la multiplication des poursuites judiciaires contre des journalistes et personnalités publiques depuis la publication d'un décret visant à combattre ce que le gouvernement considère comme des fausses informations est devenue une menace pour la liberté d'expression, encourageant l'autocensure, déplore des ONG et des professionnels de médias. Le 13 septembre 2022, le président Kais Saied a promulgué le décret 54 qui punit jusqu'à 5 ans de prison quiconque utilise les réseaux d'information et de communication pour rédiger, produire, diffuser ou répandre des fausses nouvelles dans le but de porter atteinte aux droits d'autrui ou de porter préjudice à la sécurité publique. Le Kenya et la Tanzanie se préparent jeudi à l'arrivée du cyclone Idaya après des pluies torrentielles qui ont dévasté l'Afrique de l'Est, provoquant la mort de plus de 350 personnes et poussant des dizaines de milliers d'autres à quitter leur foyer. Les inondations qui ont déjà coûté la vie à plus de 188 personnes au Kenya depuis mars ont également déclenché le déplacement de 165 000 personnes et 90 sont portées disparues, a indiqué le ministère de l'Intérieur. Le gouvernement a exhorté la population à demeurer en alerte. La région côtière est susceptible d'être confrontée au cyclone Hidaya qui entraînera de fortes précipitations, de grosses vagues et des vents violents pouvant affecter les activités maritimes dans l'océan Indien, a annoncé le bureau du président kényan William Ruto. Au Mali, les principaux groupes séparatistes qui affrontent les forces gouvernementales dans le nord du pays ont annoncé qu'ils formaient une nouvelle coalition et nommaient une figure indépendantiste à leur tête, selon un communiqué rendu public jeudi. Deux chauffeurs du Comité international de la Croix-Rouge, CICR, ont été tués et trois employés blessés par des personnes armées jeudi dans la région du Darfour Sud, au Soudan, a annoncé la CICR dans un communiqué à Genève. L'équipe revenait de Laïba pour évaluer la situation humanitaire des communautés touchées par la violence armée dans la région lorsque le drame s'est produit, précise le communiqué. L'atelier de formation de la Fédération internationale Feia Alegria, tenu du 22 au 26 avril à Nairobi au Kenya, a permis aux conseillers d'administration d'évaluer et de relever les défis face auxquels est confrontée l'éducation populaire en Afrique et au Madagascar. Face à ces défis que propose Feia Alegria aux pays dans lesquels il œuvre en vue de mieux accompagner les populations. Le père Alfred Kitezo, directeur de Feia Alegria en République démocratique du Congo, nous répond.
La proposition que nous avons essayé de ficeler ici ensemble met l'accent sur notre identité, une identité qui existait déjà, mais une identité qui peut bénéficier des nouvelles alternatives pour les années à venir. Et nous n'avons pas la prétention de répondre à tous les défis éducatifs au niveau africain. Notre souci est simplement d'être des partenaires, des bases, des nos États africains dans chaque pays où nous nous trouvons pour que tous ensemble, nous puissions alors proposer à nos concitoyens des offres éducatives qui soient réalistes, qui soient pratiques, qui soient holistiques, mais qui soient aussi utilitaires. Donc, Feia Alegria n'a pas la prétention de remplacer les États africains, mais notre premier souci, et ça c'est aussi notre mission, c'est d'être proche de nos États, de pouvoir prêter main forte là où il est faux, mais surtout en gardant nos pieds dans les milieux où se trouvent les personnes défavorisées. Donc, une telle approche, elle est réalisable dans les contextes africains parce que nous en avons déjà l'expérience, mais peut-être que maintenant, nous allons alors donner une autre orientation à tout ce que nous avons déjà fait pour que nous soyons effectivement proches des personnes.
Que peut-on dire en termes d'impact de Feia Alegria dans les pays où vous êtes?
Je crois que l'impact est réel. Nous sommes arrivés ici à Nairobi, au Kenya, pas comme des néophytes. Non, nous sommes arrivés ici en tant qu'acteurs actifs et chaque pays a un certain nombre d'activités qu'il planifie, qu'il organise, qu'il réalise. L'impact est réel, mais comme on le dit toujours, nos pays sont différents les uns des autres. Dans les contextes du Tchad n'est pas celui de la RDC, et celui de la RDC n'est pas celui de Madagascar. Bref, nous avons déjà un réel impact. Et cet impact, si on pouvait le mesurer, je ne serais même pas capable de pouvoir le mesurer en tant que tel, mais si l'on pourrait dire un mot sur cet impact que nous avons déjà en tant que Feia Alegria dans les contextes africains, je dirais que nous faisons de notre mieux, comme j'ai eu à le dire tantôt, pour apporter une offre éducative aux personnes qui sont vraiment défavorisés. Et nous faisons de notre mieux pour que ces personnes puissent jouer un rôle principal, un rôle significatif, un rôle stratégique au sein de leur communauté de vie. Et là, nous faisons de notre mieux pour créer, mettre en place des mécanismes de développement communautaire en nous appuyant sur des personnes bénéficiaires de notre travail. Ça, c'est le travail de Feia Alegria en Afrique. Et cette approche, elle est présente dans tous les pays. Mais il y a aussi la question de l'accès à l'éducation de toutes ces personnes défavorisées. Nous faisons de notre mieux pour que ceux qui n'ont pas bénéficié de leur droit à l'éducation puissent en bénéficier, quel que soit leur âge.
Quelle est la catégorie cible de vos actions et comment cette catégorie apprécie-t-elle vos activités?
Que ce soit des enfants, des jeunes, des adultes, sont des personnes qui bénéficient de notre approche éducative en Afrique. Mais il y a un cas particulier, notamment au Tchad et en Guinée-Conakry, où nous travaillons avec des communautés musulmanes, essentiellement avec des communautés musulmanes. Et j'ai pu affirmer que dans ces contextes, Feia Alegria est aussi un instrument de base, un instrument capital pour les dialogues interreligieux entre les communautés chrétiennes et les communautés musulmanes. Bref, notre impact est réel. Peut-être qu'on n'a pas le temps d'en parler vraiment sur des grandes échelles, mais c'est un impact qui est réel, c'est un impact qui est palpable Et les bénéficiaires de nos activités dans nos 6 pays en sont fiers et en parlent vraiment avec conviction.
Père Alfred Kitezo, directeur de Fei Alegria en République démocratique du Congo, est membre du conseil d'administration de la Fédération internationale Fei et Alegria. Place à présent à notre rubrique sur l'actualité internationale de la semaine. Parole à Stanislas Kambashi.
Voici quelques brèves qui ont marqué l'actualité internationale cette semaine. Une sonde pour collecter des échantillons sur la face cachée de la Lune, lancée par la Chine vendredi, une première mondiale, qui serait une avancée pour l'ambitieux programme du pays. Une fusée transportant la sonde Change 6 a décollé du centre de lancement spatial de Wenchang sur l'île tropicale de Hainan au sud. L'agence d'État Chine Nouvelle a salué ces lancements comme la première entreprise de ce type dans l'histoire de l'exploration humaine de la Lune. Le ministère taïwanais de la Défense a annoncé vendredi avoir détecté 26 avions et 5 navires chinois autour de l'île au cours des dernières 24 heures. Ces sorties ont eu lieu quelques semaines avant l'investiture le 20 mai du nouveau président de Taïwan, Lai Ching-te, que la Chine considère comme étant un dangereux séparatiste. En Inde, le premier ministre sortant Narendra Modi multiplie les meetings depuis quelques semaines pour assurer sa réélection à l'issue des législatives. Le scrutin a commencé le 19 avril et s'étale jusqu'au 1er juin. La campagne est très longue, mais le leader indien a les moyens de saturer l'espace médiatique. Il dispose des moyens sans commune mesure avec ses opposants. À New Delhi, Emmanuel Derville.
Depuis le début de la campagne des législatives, il ne se passe pas un jour sans que Narendra Modi fasse un, voire plusieurs meetings ou donne une interview à la télévision. Son parti, le BJP, dépense des centaines de milliers d'euros. En 6 ans, il a levé près d'1 milliard auprès des entreprises grâce à des bons électoraux. C'est 4 fois plus que le parti du Congrès, son principal adversaire. Surtout, le Premier ministre exploite l'appareil d'État. L'administration a donné aux militants les coordonnées des allocataires des aides sociales. Ils font ensuite du porte-à-porte pour les inciter à voter Modi. 2 mois avant le début du vote, le gouvernement central avait aussi lancé une campagne pour promouvoir les mesures de protection sociale. Les ministres et les fonctionnaires ont été mobilisés pendant 3 mois. Le BJP jouit d'un avantage par rapport à ses concurrents, une inégalité de nature à remettre en cause l'intégrité du scrutin. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
Des dizaines d'étudiants pro-palestiniens de l'Université nationale autonome de Mexique, UNAM, la plus grande du pays, ont dressé un camp jeudi à Mexico pour protester contre l'offensive militaire israélienne dans la bande de Gaza et en solidarité avec les manifestations d'étudiants aux États-Unis. Signalons qu'au moins 30 universités américaines ont été les théâtres des manifestations pro-palestiniennes ces dernières semaines. Des pareils rassemblements ont aussi eu lieu dans d'autres pays. L'Iran a annoncé jeudi des sanctions à l'encontre de plusieurs personnes et entités américaines et britanniques pour leur soutien à Israël dans sa guerre contre le Hamas palestinien dans la bande de Gaza. Le Kremlin a qualifié jeudi d'infondées les accusations américaines, affirmant que la Russie a eu recours à un agent chimique contre les forces ukrainiennes en violation de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques. Des familles irakiennes rapatriées de la Syrie, au moins 160 familles irakiennes, totalisant environ 700 personnes, ont été rapatriées du camp syrien d'Al-Hol, qui abrite notamment des proches des djihadistes du groupe État islamique, selon des responsables irakiens dans le nord de l'Irak, où le groupe des rapatriés est arrivé. Anne-Sophie Lemoff.
700 Irakiens liés au groupe État islamique, parmi lesquels une majorité de femmes et d'enfants, ont quitté le camp syrien d'Al-Hol pour regagner un autre camp situé, celui-ci, près de Mossoul, dans le nord de l'Irak. Il s'agit de la 15e opération de rapatriement de citoyens irakiens menée par les autorités irakiennes. 7500 personnes ont déjà été en tout rapatriées. Plus de 19500 Irakiens peupleraient encore le camp d'Al-Hol, tenu par les Kurdes syriens, connu dans un passé récent pour abriter 73 000 personnes. Des déplacés qui continuent pour beaucoup de porter l'idéologie extrême du groupe État islamique et qui constituent de futures bombes à retardement dans un camp réputé pour être une poudrière avec ses lots d'assassinats et de viols. Sitôt arrivés dans le nord irakien, tous sont alors soumis à un programme de réhabilitation avec l'aide d'agences internationales. Des rapatriements vus d'un très mauvais œil par la communauté yézidi, victime des exactions de l'EI, qui craint un retour en force du terrorisme sur ces terres. À Bagdad, Anne-Sophie Lemouf pour Radio Vatican.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est ici que prend fin cette édition de notre programme que Jacques Ngoale vous a présenté. Merci de l'avoir suivi avec attention. Restez toujours fidèles à nos programmes. Prochain rendez-vous demain. Au revoir.